Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus le Christ et en l'Esprit Saint notre Consolateur. Bienvenue à tous et à toutes qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à vous qui nous regardez par Internet ou par les réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce matin, notre culte revêt une couleur particulière parce que nous rendons grâce à Dieu avec les femmes du comité de la Journée mondiale de prière des femmes de Palestine. Chaque année, un pays est mis en lumière par la JMP mondiale pour que la cause des femmes puisse être connue et entendue et que la solidarité avec tous les comités JMP se mette en place. La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes à la fin du 19e siècle. Cette journée est célébrée chaque année le premier vendredi du mois de mars. Cette année, c'était donc le 1er mars 2024, et ce, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures, autour de la Terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur. Chaque année, les femmes d'un pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique. Cette année, les femmes chrétiennes palestiniennes ont écrit la célébration à partir du texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. « Je vous exhorte, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Et elles ont donné pour titre à cette célébration « Un lien d'amour pour la paix ». Beaucoup de réactions positives et négatives cette année au sujet du choix du pays vu les événements actuels. Mais il faut savoir que le choix a été fait en 2017 et que les femmes chrétiennes de Palestine ont terminé la rédaction du texte de cette célébration au printemps 2022. Le contexte n'était pas celui d'aujourd'hui. Il n'est donc pas fait mention des événements actuels. Mais les souhaits de paix sont encore plus forts aujourd'hui et le texte reste d'actualité. C'est donc au nom des femmes de Palestine que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte. Et nous prions avec leurs mots. Dieu de justice, bénis-nous. Et fais de nous des témoins de paix et de justice. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions tout regarder à ta manière. Protège-nous de toute forme de violence, souffrance, vengeance que nous pourrions imposer à d'autres. Dieu des réfugiés, qui, enfant, a dû fuir devant le massacre à Bethléem. Tu connais la détresse des réfugiés et des personnes déplacées. Reste avec nous et aide-nous en ces temps d'obscurité. Protège les réfugiés, guide-les vers des lieux sûrs. Ouvre les cœurs de celles et ceux qui les accueillent. Guide les actions des dirigeants politiques afin que les besoins et les attentes de ces migrants puissent être pris en considération. Conduis-nous vers une vie digne de l'appel que nous avons reçu. Amen. Et nous vous invitons à prendre maintenant le premier chant du livret inséré dans le psautier français, premier chant de la communion dans la communion fraternelle. Il s'intitule « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour » et nous vous invitons à vous lever.
Nous louons le Seigneur avec le psaume 85 du chef de chœur des fils de Corée. Psaume. Tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as mis fin à ton emportement, tu es revenu de ton ardente colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Renonce à ta rancune envers nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, prolongeant ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute ce que dit Dieu, le Seigneur. Il dit « paix » pour son peuple et pour ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et la gloire va demeurer dans notre pays. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui et ses pas tracent un chemin. Poursuivons notre louange avec dans le psautier français, le psaume 118, les strophes 1, 2, 3 et 4.
prenez place. Dans les heures qui ont précédé sa crucifixion, Jésus a donné ce commandement nouveau à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous prenons les réponses situées au début du psautier français.
Les femmes de Palestine se présentent devant Dieu. Dieu de la vie, devant toi, nous nous rappelons les qualités essentielles de celles et ceux qui se confient en toi. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Nous confessons notre faiblesse et notre incapacité à accepter les autres sans les juger. Pourtant, avec humilité et patience, nous relevons les défis de nos familles, notre lieu de vie, nos églises. Viens à notre aide. Avec toi, Dieu de la vie, nous pouvons tout surmonter avec douceur et amour. Avec toi, nous resterons forts dans la foi, car nous t'appartenons. Toutes et tous, Dieu de la vie. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas et mon alliance de paix ne chancellera pas. L'Éternel dit ces paroles, il a compassion de toi. Chantons ensemble.
Nous restons debout et nous vous proposons de vous unir à cette confession de foi qui s'intitule « À toutes les tisserandes du monde ». Dieu est assise et pleure. La merveilleuse tapisserie de la création qu'elle avait tissée avec tant de joie est mutilée, déchirée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffon. Sa beauté est saccagée par la violence. Dieu est assise en pleurant. Mais voyez, elle rassemble les morceaux pour tisser à nouveau. Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causées par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, le viol, les tueries. Elle rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix, des protestations contre l'injustice. Toutes ces choses qui semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice dans l'espérance, la foi et l'amour. Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse, en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne. Dieu est assise, tissant patiemment, avec persistance, et un sourire rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes. Et elle nous invite non seulement à continuer à lui offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés dans le métier de l'allégresse et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. À Dieu soit la gloire, sur la terre comme au ciel, et d'éternité en éternité. Prenez place. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, nous lirons aujourd'hui au chapitre 4 les versets 1 à 7, selon la traduction œcuménique de la Bible. Je vous y exhorte dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Éternel, merci pour ta parole qui nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes. Amen. Alors je vous invite à prendre à la fin du psautier français le choral numéro 40. Il se situe dans les suppléments qui sont à la fin du psautier français. Il s'intitule « Seigneur, c'est toi notre secours ». Et je vous invite à chanter les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous lever. Place. Prions ensemble. Éternel, Dieu de la vie, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous venons avec ce qui fait l'ordinaire de nos vies, l'ordinaire de notre quotidien. Nos soucis familiaux, nos problèmes de travail peut-être, nos angoisses par rapport au lendemain, mais nous voici devant toi tels que nous sommes et nous te louons, nous te rendons grâce de nous donner ici et maintenant ton Esprit Saint, afin qu'il ouvre à la fois nos cœurs, mais aussi notre esprit, pour recevoir la parole que tu nous destines ce matin. Amen. Amis, sœurs et frères, comme je le disais en introduction de ce culte tout à l'heure, c'est donc en 2017 que la Palestine a été retenue comme pays qui participerait à la Journée mondiale de prière en 2024. Et c'est donc en 2022 que le groupe œcuménique de femmes de la JMP Palestine a terminé de rédiger la liturgie de la célébration d'aujourd'hui, dont nous avons emprunté de larges extraits. Personne ne pouvait prévoir la situation de guerre dans laquelle se trouveraient la Palestine et Israël aujourd'hui. Alors, donner la parole à ce groupe œcuménique de femmes chrétiennes palestiniennes a été diversement apprécié. Le comité de préparation a reçu de nombreuses intimidations pour que les femmes de la JMP Palestine renoncent. Mais c'est mal connaître les femmes palestiniennes. Tout compte fait, c'est mal connaître les femmes dans l'absolu, quel que soit le pays dont elles sont issues, quelle que soit l'éducation qu'elles reçoivent, quelle que soit leur religion, dès lors qu'elles choisissent de résister à tout ce qui pourrait faire obstacle à la paix et à la dignité. Et c'est le cas pour nos amies chrétiennes de Palestine, amies selon la compréhension que Jésus fait de ce mot dans l'évangile de Jean. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amies parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi que je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je rappelle au passage que Dieu n'appelle pas des personnes capables, mais qu'il rend capables celles et ceux qu'il appelle. Depuis que le groupe œcuménique de femmes de Palestine, basé à Jérusalem, ont été donc choisies pour présider cette prière en mars 2024, elles ont beaucoup réfléchi au texte biblique qu'elles retiendraient pour cette célébration. Et leur discernement s'est porté sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Avec celles qui furent adressées probablement par l'apôtre Paul aux Colossiens, aux Philippiens et à Philémon, cette lettre est destinée aux Éphésiens, appartient au groupe des épîtres dites de la captivité. Elles ont été rédigées au moment où Paul se trouvait prisonnier à Rome, à la suite de son arrestation dans le temple de Jérusalem et de son appel, son obligation à passer devant le tribunal de César. Et dans cette lettre, entre autres, nous y trouvons un chapitre sur l'unité de l'Église naissante, où juifs et païens se retrouvent pour former un seul et même édifice spirituel. Selon cette citation, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, la haine. » Plus loin, dans sa lettre, l'apôtre Paul passe de la théorie théologique à l'application pratique dans la vie quotidienne chrétienne. Et non seulement il demande un renouvellement dans la participation de chacun selon ses dons, à l'édification et à la prospérité de l'Église, il souhaite qu'il en soit de même dans les différents domaines de l'existence quotidienne, comme dans la vie familiale et sociale. Et cette vie nouvelle à laquelle l'apôtre Paul invite ses contemporains, et en particulier donc les hommes et les femmes de l'Église d'Éphèse, eh bien c'est comme une sorte d'armure pacifique qui convient au combat spirituel que doit, ou en tout cas devrait, mener chaque chrétien, quelle que soit sa dénomination, un combat pour la paix. Et dans sa lettre, Paul demande aux chrétiens d'Éphèse de mener une vie qui soit digne de l'appel qu'ils ont reçu en tant que communauté nouvellement enracinée dans la foi chrétienne. Mais en fait, Paul ne demande rien. Il exhorte la petite communauté chrétienne à se supporter les uns les autres. Et le terme grec employé pour dire « exhorter » est un mot très fort, très profond, en ce sens qu'il s'apparente à quelque chose de l'ordre de la supplication, quelque chose de l'ordre de la prière pressante, que l'on pourrait traduire par « je vous en supplie, je vous en conjure ». Et c'est bel et bien toute une prière qui est contenue dans ce mot. Alors, le groupe de femmes chrétiennes palestiniennes a buté sur la compréhension de ce mot « exhorter ». Certaines dans le groupe auraient aimé que Paul soit plus directif, plus autoritaire par rapport à l'Église d'Éphèse. Mais voilà, Paul a choisi de ne pas commander. Il a choisi de ne pas commander les chrétiens d'Éphèse, parce qu'il les considère comme étant supérieurs à lui. Mais il veut parler au cœur de chacun. Puisque chacun et chacune est renouvelé dans sa vie et dans sa foi, par sa rencontre et son adhésion au Christ, alors il espère que chacune et chacun arrivera à vivre sa vie quotidienne en suivant le Christ, en mettant ses pas dans les siens, en harmonisant sa vie tant intérieure qu'extérieure, au commandement de Jésus, aimer son prochain comme soi-même, autrement dit, aimer l'autre comme moi-même je suis aimé de Dieu. Ce n'est pas chose facile, et à Éphèse, à cette époque-là, les chrétiens étant minoritaires, ils rencontraient des difficultés au quotidien. Aujourd'hui, c'est la communauté chrétienne palestinienne qui est minoritaire. Et pourtant, une grande innovation a eu lieu l'année dernière, qui ne vous aura certainement pas échappé. Sally Azar a été ordonné pasteur de l'Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte le 22 janvier 2023. Et elle est actuellement pasteur dans l'Église anglophone du Rédempteur située dans la vieille ville de Jérusalem. Et dans une interview, la pasteur Sally s'exprime. Dans une région où les mentalités sont encore très conservatrices, je me prépare à rencontrer des résistances. Et cela n'a pas tardé quand elle a pris la présidence de la JMP Palestine.
Et c'est le moment de se rappeler que les Palestiniens ne sont pas seulement musulmans, mais qu'il y a aussi vraiment des communautés chrétiennes. Lors de leur séance de préparation, le groupe œcuménique de femmes chrétiennes palestiniennes s'est demandé « Comment est-ce de vivre en tant que chrétien en Palestine ? Que veut dire vivre en tant que minorité en Terre Sainte ? Si les Éphésiens de l'époque de Paul ont connu des difficultés, où minorités et communautés ont été opprimées, c'est aussi ce que les chrétiens de Palestine connaissent et ressentent aujourd'hui par des attaques régulières perpétrées par des fondamentalistes. Et c'est ainsi qu'ils s'identifient à la communauté d'Éphèse du temps de Paul. Et Sally Hazard pose la question, comment les Éphésiens et nous-mêmes pouvons-nous vivre dans de telles sociétés ? Elle esquisse cette réponse. Comme Paul l'a dit, avec humilité, douceur et patience. Mais c'est extrêmement difficile à vivre, surtout lorsque nous vivons à Jérusalem, à côté des uns et des autres, et non pas ensemble. Il est difficile d'appliquer cette exhortation aux deux vivant à Jérusalem, Palestiniens et Israéliens. Il y a dans l'air une tension insupportable. Personne n'écoute l'autre et il n'y a aucune compréhension mutuelle. Fin de citation. Et pourtant, sur le terrain, certaines personnes essayent de changer les choses, ainsi que nous allons l'entendre par le témoignage de Sarah.
Je m'appelle Sarah. Parfois, j'ai l'impression d'être comme une feuille d'olivier, connectée aux racines et m'épanouissant de l'intérieur. Je suis née et j'ai grandi à Jérusalem. Je suis une chrétienne luthérienne. Vivre comme femme palestinienne a toujours été un défi et rien n'a changé. Mais je suis heureuse de constater que les choses commencent à bouger dans la société grâce à mon église qui a ordonné la première femme pasteur. Au fil des ans, j'ai vu et admiré la résistance des Palestiniens. L'histoire de ma propre famille est liée à l'histoire de la Palestine, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Mes grands-parents habitaient Jaffa. C'est là qu'ils ont grandi, aux côtés d'autres chrétiens, de musulmans et de juifs. Lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, ce fut une catastrophe pour les Palestiniens qui vivaient sur cette terre depuis des millénaires. Cette catastrophe, nous l'appelons la Nakba. Mes grands-parents ont été expulsés par les forces israéliennes. Ils sont alors devenus des réfugiés en Jordanie. Bien des années plus tard, mes grands-parents sont venus chez nous à Jérusalem et mes parents ont emmené toute la famille faire un tour à Jaffa. Mon grand-père, ravi de pouvoir nous montrer la maison dans laquelle il avait vécu, nous a raconté des histoires sur son enfance et comment il plantait des arbres avec son père. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous avons retrouvé la maison. Tout avait changé, sauf les arbres. Malheureusement, les gens qui vivaient alors dans la maison ont été très agressifs envers nous. J'étais encore très jeune, mais je me souviens très bien comment ils criaient et nous ont chassés avec violence. En fait, nous n'avions pas l'intention d'entrer dans la maison, nous voulions juste la voir de l'extérieur. Mon grand-père essayait de leur expliquer et de leur dire qu'à l'époque, c'était sa maison à lui. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Le sentiment de malaise devait être plus fort encore pour mon grand-père qui, en quelque sorte, se faisait chasser pour la deuxième fois de sa propre maison. Plus tard, lorsque j'ai rendu visite à mes grands-parents en Jordanie, ma grand-mère m'a montré les clés que sa mère avait gardées en quittant la maison, dans l'espoir un jour de pouvoir y retourner. Tristement, beaucoup d'autres ont vécu la même histoire. Depuis les Nakba de 1948 et 1967, et même jusqu'à ce jour, les gens se font encore chasser de chez eux. Beaucoup ont gardé leurs clés dans l'espoir de pouvoir revenir, un espoir qu'ils se transmettent de génération en génération. Je sais que l'arbre dont je suis issu est fort et résilient. Je suis nourri par l'amour que m'ont donné mes ancêtres. Je peux parler et supporter les autres avec amour parce que mes ancêtres l'ont fait avant moi. C'est leur amour qui m'a permis de m'épanouir comme la feuille d'un olivier.
Comment trouver les mots justes ? Que dire à une personne, à une communauté dans laquelle une grande souffrance est devenue le quotidien ? Les Palestiniens vivent dispersés dans le pays avec des droits différents. Tout est organisé pour semer la division à l'intérieur de la communauté même lorsque certains droits sont accordés à certains Palestiniens et pas à d'autres, par exemple. L'apôtre Paul invite à nous soutenir les uns les autres avec amour. Mais comment faire face à l'injustice constante ? Les femmes palestiniennes ont fait part de leur endurance. Leur résistance réside dans l'endurance. Et c'est le mot donc « supporter » qu'elles ont retenu dans tout le passage de la lettre de Paul. Supporter, autrement dit, porter au-dessus. Et en arabe, supporter se dit « hamel », qui signifie concrètement et physiquement « porter ». C'est un mot utilisé dans de nombreuses situations, en particulier lorsqu'une femme est enceinte. Les femmes portent beaucoup de choses. En premier lieu, elles portent la vie, elles portent donc le monde. Elles portent aussi le travail, la famille, la communauté, sans oublier le poids des inégalités que les sociétés patriarcales font peser sur elles. Ainsi qu'en témoigne Éléonore.
Je m'appelle Éléonore, ma peau est ridée comme le tronc des vieux oliviers. Comme eux, j'ai été témoin de nombreuses guerres et d'actes de violence. Je suis une chrétienne palestinienne, membre de l'Église orthodoxe grecque en Terre Sainte. J'ai grandi dans une vieille famille de Jérusalem profondément enracinée dans cette ville. Au début du XIXe siècle, mon arrière-grand-père a fondé l'Église orthodoxe Saint-Georges pour donner un lieu de culte aux chrétiens vivant en dehors des murs de la ville. Cette église a subsisté jusqu'à la catastrophe de 1948, la Narba. En raison des bombardements et des tirs d'artillerie lourde, 750 000 Palestiniens ont été contraints de fuir, de se disperser et de devenir des réfugiés. Ma famille en faisait partie. Nous avons trouvé refuge chez le cousin de ma mère, l'espoir de retourner sous peu dans notre maison et à l'église Saint-Georges. Cela ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, ces bâtiments sont devenus la Confederation House, un centre culturel israélien. Quand mes parents se sont préparés à fuir, leurs voisins juifs ont proposé de stocker chez eux le trésor de l'église, notamment les icônes et les précieuses coupes de communion jusqu'au retour de la famille. Malheureusement, mes parents sont décédés sans avoir pu réaliser leur rêve de grand retour. Malgré leur douleur et leur souffrance, ils restaient reconnaissants envers leurs voisins juifs et parlaient d'eux avec gentillesse. Mes parents m'ont appris à supporter les autres avec amour et à être toujours reconnaissante envers celles et ceux qui font le bien. Au fil de ma vie chrétienne palestinienne, vivant à Jérusalem, j'ai choisi de m'engager pleinement auprès de ma communauté, tant au niveau local que mondial. L'exemple de mes parents m'a appris combien il est important de rester unis les uns et les autres, même lorsque la vie est dure et difficile. Mon engagement a commencé lorsque j'étais en sixième. Ma professeure d'arabe m'a demandé de lui faire des courses dans le cadre de son travail humanitaire. Elle était douce et fervente, ce qui m'a aidée à apprécier et à aimer travailler pour améliorer la vie des autres. Plus tard, j'ai conçu et mis en œuvre des projets sociaux, des programmes d'aide humanitaire, de développement, destinés à tous, quelle que soit leur religion, leurs origines ethniques, leur sexe, leur statut ou leurs besoins. J'ai eu le privilège d'aider des centaines de femmes de Jérusalem, de la bande de Gaza et de Cisjordanie à subvenir par leur travail aux besoins des leurs, elles qui étaient devenues soutien de famille. Nombre de ces projets se sont ensuite développés et étendus à d'autres régions. Ils ont eu un impact décisif sur la vie de beaucoup de gens. Je n'ai pas toujours eu la vie facile. J'ai connu des revers, rencontré des obstacles et même reçu des menaces. Cependant, je crois fermement que notre communauté peut être forte s'il existe entre nous un amour véritable, de la compréhension, de la douceur, de l'humilité et de la patience. Depuis mon enfance, je sais que la vie est fragile et que la paix n'offre pas pour autant une garantie. J'aurais pu quitter ce pays où j'ai mes racines. J'ai choisi de rester et de vivre selon le commandement de Jésus, aimer mon prochain comme Dieu m'aime.
Mais posons-nous la question jusqu'au bout. Qui est donc concrètement l'autre que Paul, à la suite du Christ, nous demande d'aimer? Faut-il supporter avec amour ceux qui font du mal aux autres? Comment se soutenir les uns les autres lorsque tout le monde est en guerre les uns contre les autres dans le même pays? L'apôtre Paul a encouragé sa communauté à se supporter réciproquement dans l'amour, malgré toutes les injustices qui caractérisent la vie quotidienne, en gardant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un défi pacifique extrême. Malgré les violences, malgré les incertitudes parfois liées juste à l'heure qui suit. Ce qui est demandé, c'est un véritable acte de foi. Pas forcément en Dieu, mais en tout cas en l'être humain. Nous le savons capable du pire, cet être humain, mais nous le croyons capable encore et toujours du meilleur. Avec cette exhortation de Paul aux accents d'une supplication, d'une imploration même, eh bien cette exhortation ouvre l'essentiel de notre personne, à savoir notre cœur. Elle fait appel à notre compassion. Elle propulse chacune et chacun dans un défi incroyable, comme l'écrit encore la pasteur Sally Hazard, la possibilité de faire preuve d'une vraie solidarité et de former une communauté qui résiste face aux obstacles de la vie, qui résiste aussi à la folie meurtrière qui s'est emparée une fois de plus du Moyen-Orient, mais qui en aucun cas ne nous fait oublier tous les autres conflits de notre monde. Alors une fois n'est pas coutume, le 8 décembre 2023, pour la 57e journée internationale de la paix, le pape François a transmis une réflexion précise sur le développement de l'intelligence artificielle que je vous invite à lire et à méditer. En conclusion, il écrivait ceci. J'espère que cette réflexion, donc sur l'intelligence, le développement de l'intelligence artificielle, encouragera à faire en sorte que les progrès dans le développement des formes d'intelligence artificielle servent, en dernière analyse, la cause de la fraternité humaine et de la paix. Ce n'est pas la responsabilité d'un petit nombre, mais de toute la famille humaine. La paix, en effet, est le fruit de relations qui reconnaissent et accueillent l'autre dans sa dignité inaliénable, ainsi que de la coopération et de l'engagement dans la recherche du développement intégral de toutes les personnes et de tous les peuples. Et un petit peu plus loin, il termine en disant « Puissent les fidèles chrétiens, les croyants des différentes religions, les hommes et les femmes de bonne volonté, collaborer en harmonie pour saisir les opportunités et affronter les défis posés par la révolution numérique » et livrer aux générations futures un monde plus solidaire, juste et pacifique. » Fin de citation. Alors, mes amis, frères et sœurs, Cela rejoint l'espérance des femmes chrétiennes palestiniennes qui comptent sur notre prière ici en Occident, ici en France et même ici à Paris Oratoire, relayée par toutes les communautés chrétiennes œcuméniques en France, mais aussi de par le monde. À nous tous et à nous toutes de faire de l'humilité et de la douceur, suppliée par l'apôtre Paul dans sa lettre, l'attitude nécessaire, voire indispensable, pour construire des ponts avec le monde et faire reculer la haine. Et les femmes palestiniennes chrétiennes nous supplient à leur tour, avec ces mots, que notre témoignage d'amour et d'unité au milieu des difficultés soit une lumière qui traverse les ténèbres, perce les ténèbres. Et nous sommes reconnaissantes pour la communion que nous partageons, que ce soit à Jérusalem ou par-delà les frontières, avec vous, grâce à la Journée mondiale de prière. Que la bénédiction de Dieu repose sur notre communauté œcuménique et que l'espérance que nous proclamons ensemble aujourd'hui reste vivante dans nos cœurs. Amen. Vous avez dû recevoir dans le psautier français une photocopie d'un cantique qui s'intitule « À l'horizon, le jour s'éloigne ». De ce cantique, nous chanterons les strophes finalement 1, 2, 3 et 4 parce que la strophe 5 a disparu à la photocopie. Donc, je vous invite à vous lever et nous écouterons David, que je remercie pour son accompagnement musical de ce matin. Il va nous jouer ce cantique une fois en entier parce qu'il n'est pas forcément connu de nos oreilles.
Prenez place et je laisse la parole maintenant à Aurore Saglio-Thébo, présidente de notre conseil presbytéral, qui a quelques annonces à nous faire.
À partager. Merci Agnès. Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui dans la salle, ou des gens qui sont venus, enfin dans l'assemblée. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons une feuille rose qui donc indique toutes les activités du semestre. Également, nous faisons chaque année, deux fois par an, un dossier de réflexion. Et ta conclusion sur les ténèbres me rappelait l'introduction du dossier numéro 827 sur le désir de conquérir. Et de Carl Gustav Jung qui disait « La clarté ne vient pas du fait qu'on imagine le clair, elle vient du fait qu'on prend conscience de l'obscurité. » Et cette prise de conscience... toutes les deux, et avec les femmes chrétiennes palestiniennes, à travers notamment ta prédication, le choix de ce verset, mais également tous ces témoignages, vous nous en trouverez d'autres sur le site de la JMP, fait quand même prendre conscience de beaucoup de choses, et de la complexité du monde, et de la nécessité d'être intelligent, d'avoir un minimum de raison, et c'est un autre dossier que nous avons fait, je crois que c'est la 829, qui était justement sur l'éloge de la raison, cette nécessité d'avoir de l'intelligence. Et ça va être aussi le thème du groupe des jeunes. Tu as cité le pape, puisque nous sommes dans une communion œcuménique aujourd'hui. Et le pape a écrit ce texte sur l'intelligence artificielle que discuteront aussi les jeunes, le groupe des jeunes. Nous avons un groupe de jeunes de 18 à 35 ans qui se réunit une fois par mois. Quelques-uns sont là
Et mercredi, ça sera leur sujet, ça sera l'intelligence, mais y compris l'intelligence artificielle, ce qu'on peut toujours espérer comme le pape, que finalement, puisque nous, on n'arrive pas à être intelligents, que l'intelligence artificielle nous aide à la paix. Et du moins, c'était son texte qui était quand même très très étonnant. Je vous invite aussi, on pourra le mettre en ligne, à le lire. Donc, vous l'avez compris, mercredi, groupe des jeunes se rencontre. Jeudi, pause spirituelle avec Agnès Adeline Schaeffer ici même. Et le week-end prochain, deux événements. Samedi, le brunch libéral avec le pasteur et théologien Laurent Gagnebin sur le thème des symboles. Donc, Béatrice Cléromazir, depuis le début de l'année, fait ce qu'on appelle un brunch. Donc un brunch, c'est-à-dire qu'on prend un grand petit déjeuner ensemble, parce que en plus on se nourrit réellement de très bonnes soupes préparées notamment par une de nos paroissiennes qui s'appelle Sidonie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait des soupes merveilleuses. Et donc le samedi matin de 10h à 12h, Béatrice Cléromazir sur un thème autour du libéralisme, et notamment de comprendre comment les symboles sont aujourd'hui à comprendre dans ce qu'on appelle le protestantisme libéral, invite le pasteur Laurent Gagnebin, dont vous trouverez certains ouvrages à la librairie.
Excuse-moi, Laurent. Juste, Laurent m'a demandé de préciser, puisqu'on n'avait pas précisé ça dans la newsletter, qu'il va parler d'un auteur important pour le protestantisme libéral, qui est Sabatier. Sabatier a écrit sur le symbolo-fidéisme. Oui, je mélange. Et donc, il a écrit un très beau livre là-dessus. Et donc, c'est sur cet auteur-là que l'exposé de Laurent portera principalement, mais évidemment dans un cadre de théologie libérale. Voilà.
Merci pour ces précisions. Vous avez aussi des ouvrages de Sabatier à la librairie, si vous ne connaissez pas Sabatier. Dimanche, en chair, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, elle était venue il y a 2 ans. Nous avons la pasteur Laurence Flachon, qui est férue d'art notamment, qui vient prêcher dimanche prochain, qui est de la paroisse de Bruxelles Musée. Donc vraiment, venez l'accueillir dimanche prochain. Elle a un peps impressionnant et vraiment on est ravis de l'avoir à nouveau. Béatrice est allée il y a moins d'un mois à Bruxelles prêcher, on fait un échange de chair avec Bruxelles, c'est vraiment très chouette, donc venez nombreux. On m'a demandé des nouvelles de l'orgue, parce que David était à l'orgue aujourd'hui, donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, l'orgue a 3 moteurs, un a brûlé la semaine encore d'avant, nous avons échappé à un incendie vraiment important. Et grâce à David et un de ses élèves, pompiers volontaires, le feu a été éteint à temps. Nous avons... Voilà, Dieu incognito, dit Agnès. La ville de Paris est donc venue avec leur expert orgue mercredi dernier. Nous les avons reçus avec David. Le facteur d'orgue était également là. Nous avons fait des tests de chaleur, parce que manifestement le premier moteur qui a brûlé a surchauffé. Il semble, sur les 2 autres moteurs, un est monté à 50 degrés assez rapidement. Donc nous avons décidé d'éteindre également le 2e moteur pour que nous ne nous amusions pas à nouveau à essayer d'avoir des pompiers volontaires au moment où les moteurs chauffent. Donc nous avons gardé 1 moteur sur 3, ce qui permet de jouer avec 2 jeux sur 3. Et donc David a préféré continuer à jouer à l'orgue plutôt qu'au petit orgue ou au piano. Et je pense que vous n'avez pas vu beaucoup de différence. Donc on va s'en sortir comme ça. On va aussi faire, la mairie de Paris a accepté de faire un audit complet de notre orgue pour qu'on fasse un vrai plan à l'avenir de ce qu'il faut faire sur cet orgue. Voilà pour les quelques nouvelles sur l'orgue. Je reviens aux journées mondiales de prière. Vous savez que le premier dimanche du mois, avec l'association de l'entraide, et bien Gilles Deveau en est le président, l'entraide sélectionne un certain nombre de dossiers, et notamment aujourd'hui, je te laisse lancer l'offrande et expliquer où vous la donnerez. Merci à toi. Merci à tous et bon dimanche.
Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, le premier dimanche, vous savez que l'offrande est généralement affectée aux actions de l'entraide, et effectivement, du coup, ce dimanche, eh ben, la collecte sera intégralement reversée à la journée mondiale de la prière, voilà. Hein, le culte était largement consacré aujourd'hui à cette opération. Donc voilà. Donc soyez généreux comme vous l'êtes habituellement. Il y aura toujours malheureusement pas de panier connecté parce que je crois que ça va mettre un moment avant de revenir.
Alors, j'ai un peu bâché l'Église Unie là, dimanche dernier sur le panier connecté. Alors, j'ai des nouvelles. On nous promet un nouveau panier connecté avant Pâques. Donc, on aura peut-être une résurrection du panier connecté à Pâques.
Voilà, donc la collecte, malheureusement, encore en liquide aujourd'hui et au profit des JMP, donc du coup. Et puis, dernière petite annonce, comme je le fais tous les mois, je vous rappelle l'action de Denise Brigou et de son association Ensemble un cœur, qui vient en aide à des personnes en difficulté. Donc elle est toujours à la recherche de produits d'hygiène et de soins corporels. Donc si vous pouvez nous amener, quand vous venez au temple, hein, vous pouvez laisser dans la première chapelle à votre gauche en entrant des gels douche, du shampoing, voilà. Ça aidera bien donc les bénéficiaires de l'association de Denise. Voilà. Et donc merci par avance et bon dimanche à tous.
J'en profite pour vous donner la devise de la journée mondiale de prière. C'est s'informer pour prier, prier pour agir. Alors l'information, on l'a eue en amont, la prière, on l'a eue, on continue de l'avoir jusqu'à la fin du culte et même au-delà. Et maintenant, avec l'offrande, c'est le moment d'agir concrètement. Sur le site de la JMP, vous trouverez absolument tous les détails de savoir où va l'argent, chez qui, pourquoi. Tout est absolument clair, net et sans faille, parce que eh bien, c'est la volonté de la JMP d'agir comme ça. Moi, j'en fais partie, Béatrice aussi, depuis longtemps. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de la JMP, Journée mondiale de prière. Pardon ? Oui, oui, et l'argent est destiné à aider les femmes en premier. Je vous invite à la prière d'intercession. Éternel, Dieu de bonté, nous te prions pour l'équipe de cette journée mondiale de prière réunie en Palestine, qui a préparé en 2022 la célébration que nous vivons aujourd'hui en mars 2024. Depuis, les événements se déchaînent. Aussi, Dieu de la vie, nous te prions avec leurs mots. Nous te remettons toutes les femmes qui, en Palestine comme ailleurs, dans le monde, perdent des enfants et d'autres membres de leur famille. Nous te prions pour que toutes ces femmes conservent leur force et que leur force soit un phare de résilience alors qu'elles endurent toutes les souffrances qu'on peine à imaginer. Donne-leur le courage de faire face à l'adversité et puissent leurs aspirations à la paix et à la prospérité briller au milieu de ces difficultés. En cette période de guerre, nous prions pour la guérison des cœurs et le rétablissement de la paix. Que la compassion l'emporte sur la haine et que les souffrances de toutes les personnes touchées par la guerre soient allégées. Accorde à chacun, chacune, force, réconfort, espoir d'un avenir meilleur. Nous te prions pour toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Nous te prions pour les otages, les personnes disparues, celles et ceux qui sont encore sous les décombres. Éternel Dieu de la vie, Dieu de Jésus-Christ, nous prions chacun à notre manière pour la fin de toutes les guerres et en particulier dans le pays que tu as appelé ta maison. Jésus, notre Sauveur, nous a enseigné le vrai sens de la paix. Guide-nous et donne-nous la persévérance de pratiquer, si peu que ce soit, la paix dans notre vie quotidienne. Nous te prions de nous garder unis les uns aux autres, les unes aux autres. Et dans cette espérance, nous rassemblons nos prières imparfaites dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur qui fait grâce nous bénit et nous garde. Qu'il ouvre nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres. Une bénédiction pour tous. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Et nous prenons le dernier répond que vous trouverez au début du psautier français. Et nous vous souhaitons un très beau dimanche.
Bon dimanche à toutes et à tous.